Donc il n'aura échappé à personne que Justin Trudeau s'est engagé pendant sa campagne électorale à réengager le Canada au niveau des missions de paix de l'ONU. Il a réitéré ça lors du discours du trône et il l'a réitéré dans les lettres de mandat confiées à son ministre des Affaires étrangères et à son ministre de la Défense, si ma lecture est bonne, à qui il incombe la responsabilité première de piloter ce dossier-là. On y reviendra peut-être plus tard. Alors clairement, en faisant ça, le gouvernement Trudeau annonçait une rupture avec, au moins sur le plan symbolique, avec ce qu'avait fait le gouvernement Harper précédemment vis-à-vis de l'ONU. Je ne rappellerai pas, évidemment, l'image que nous avions de la manière dont le gouvernement de M. Harper traitait l'ONU. Peut-être que, notamment en privilégiant peut-être davantage un multilatéralisme à la carte et en ne faisant pas nécessairement de l'ONU l'instrument de prédilection de la politique étrangère canadienne, en disant finalement l'ONU est peut-être un outil parmi d'autres de la question de la paix et de la sécurité, mais pas nécessairement l'outil qu'il faut systématiquement privilégier. Peut-être à raison, on y reviendra. Un rappel, évidemment, c'est que quand on parle du désengagement canadien vis-à-vis de l'ONU, on ne parle pas ici de quelque chose qui est né sous le gouvernement conservateur, mais si on parle du retrait humain, donc du déploiement de militaires, notamment sous l'égide des Nations Unies, c'est un mouvement amorcé dès les années 90, suite à ce qu'on a appelé la Somalie, le Rwanda, évidemment l'ex-Yougoslavie. La tendance, d'ailleurs, le Canada, du reste, n'était pas le seul à se désengager des missions de paix de l'ONU. Il l'a fait avec la plupart des pays occidentaux. Donc ça, c'était simplement en guise de rappel. Il est vrai qu'en revanche, le Canada a continué d'être un contributeur financier important aux missions de paix de l'ONU et qu'il a continué d'avoir beaucoup de staff au sein des Nations Unies, et donc de contribuer de cette manière-là, finalement, aux missions de paix de l'ONU, et aussi au niveau doctrinal, avec, évidemment, des concepts comme la sécurité humaine, que vous connaissez, donc promus par l'ancien ministre Lloyd Axworthy. Donc la question aujourd'hui qui se pose, évidemment, au gouvernement et aux fonctionnaires canadiens, c'est de répondre à plusieurs questions. La première, c'est pourquoi le Canada doit se réengager? Comment il doit se réengager? Quand et où? Et donc, il est à l'heure actuelle en train de discuter de cette question-là. Pour répondre à ces questions-là, je pense qu'il faut faire un retour sur une décennie des opérations de paix, simplement pour dresser le tableau rapidement de où est-ce qu'on en est. Alors, je donnerai quelques points sur ma lecture, ou mon analyse de comment les missions de paix ont évolué. La première, c'est que, je pense que le rappeler n'est pas si anecdotique que ça, l'ONU reste un outil extrêmement pertinent de la résolution des conflits. C'est pas si évident que ça. Ça nous paraît aujourd'hui pris pour acquis, mais on voit de part et d'autre que certains pourraient être tentés de remettre en question cette hypothèse de départ. Donc, mais si l'ONU reste pertinente, ce qui nous est apparu clairement au cours de la dernière décennie, ou des 15 dernières années, c'est que d'autres gros joueurs sont arrivés. Le premier, évidemment, auquel on pense tous, c'est l'OTAN. Alors vous me direz, l'OTAN, c'est pas très nouveau. Non, mais conduire une mission hors zone de la taille de celle que l'OTAN a menée en Afghanistan, ça faisait d'un joueur, évidemment, ou de l'OTAN, un nouveau joueur des opérations de paix. Je rappelle que pendant la décennie écoulée, si 50% des opérations de paix étaient accomplies par des casques bleus, 40% l'étaient par des soldats sous l'égide de l'OTAN. Et le 10% restant les missions de l'Union africaine, notamment, et de l'Union européenne, dans une moindre mesure. Donc on a quand même d'autres partenaires. Ça, c'est mon premier point. Donc l'ONU, toujours pertinent, mais à l'intérieur, effectivement, d'une multiplicité d'acteurs. Le deuxième point, qu'on oublie souvent de rappeler, mais évidemment, ça a été pour nous, à l'époque où j'étais Europe, notre cheval de bataille, c'est que plus de 50% des casques bleus, au cours des 10 dernières années, ont été déployés dans des espaces francophones. À l'heure actuelle, les chiffres qui nous ont été transmis, c'est 60%. Ça veut dire qu'un casque bleu est sur un théâtre d'opération francophone. Alors, on n'ira pas essayer de faire ici une sociologie de l'espace francophone, évidemment, mais ce que ça veut dire, c'est que, clairement, il y a un besoin de capacité francophone pour les missions de paix de l'ONU. Le troisième point que je voudrais souligner, c'est qu'évidemment, les missions, des missions conduites sous l'égide des Nations Unies sont toujours plus complexes. Ce sont des missions multidimensionnelles qui, finalement, ont montré, dans une certaine mesure, les limites de la consolidation de la paix par les Nations Unies, les limites de ces immenses déploiements encore en République démocratique du Congo, etc. Je suis sûr qu'il y a quelques collègues qui ne me contrediront pas là-dessus, en tout cas sur les difficultés qu'on a à conduire ce genre de mission. Et je pense que ça nous a ramené sur deux points. Si on y ajoute d'ailleurs, excusez-moi, aujourd'hui une complexification croissante, c'est le terrorisme. Vous avez un enchevêtrement entre les missions de paix multidimensionnelles et puis le nexus avec le terrorisme. Les Nations Unies ne veulent pas faire de terrorisme, mais on voit clairement aujourd'hui au Sahel que c'est difficile de faire de la mission de paix sans faire du contre-terrorisme. Et donc là, vous avez effectivement une difficulté supplémentaire dans la lecture qu'on peut faire de l'évolution des missions de paix à l'heure actuelle. Ça, ce que ça nous a montré, c'est qu'aujourd'hui, peut-être qu'il serait beaucoup plus économe, le constat n'est pas nouveau, de miser sur la prévention des conflits et sur la médiation. En tout cas, de mettre l'effort. Parce que si on échoue dans la prévention, eh ben, effectivement, il faudra y aller avec des solutions peut-être plus militaires, et puis des solutions politiques à long terme. Mais au moins, on se sera donné la chance peut-être que, financièrement, mais surtout humainement, ça nous coûte moins cher. Est-ce que tous les efforts à l'heure actuelle sont entrepris pour faire de la bonne prévention? Je n'en suis pas certain. Ça montre aussi la nécessité d'une bonne capacité d'analyse des questions du terrain. Alors je ne reviendrai pas ici, et puis je ne parlais pas nécessairement des missions de paix, mais si on reprend évidemment l'intervention anglo-américaine en Irak en 2003, dont certains au Canada étaient de farouches partisans, on retourne aujourd'hui 10 ans plus tard en Irak, probablement parce que la compréhension de la situation géopolitique dans cette région du monde n'a pas forcément été la meilleure possible. Autre élément des missions de paix à l'heure actuelle, évidemment, l'enjeu de la protection des civils. Plus que jamais, la question de la protection des civils est un enjeu majeur qui en appelle un autre, c'est à quel moment est-ce qu'on recourt à la force? Et là, pour protéger les civils, il faut accepter de mettre la vie, souvent, de militaires en jeu. Ça appelle une autre question, évidemment, celle du déploiement rapide des forces et de leur capacité de combat. Donc, rapidement être capable de déployer, et pas en 6 mois, 1 an, 2 ans, des forces sur le terrain pour faire de la protection des civils. Et ça, ça appelle mon dernier point sur la question de la dernière décennie. On sent une lacune au niveau de la compréhension de ce recours à la force, surtout au niveau des sociétés hautes. Et on s'aperçoit que souvent, les sociétés hautes, comme le Mali par exemple, accueillent assez favorablement les débuts des missions de paix. Surtout quand vous avez Al-Qaïda au Maghreb islamique avec quelques groupes et qu'on sent qu'ils arrivent à Bamako, on est content d'avoir les forces françaises qui les repoussent, puis d'avoir une mission de paix de l'ONU. Mais à mesure que la mission s'enlise, la perception des sociétés devient de plus en plus négative. Et d'une force positive qui était censée reconstruire le pays, on devient plus ou moins parfois une force d'occupation. On a surtout l'impression finalement que les choses n'avancent pas assez vite. Donc cet élément et ce lien entre les sociétés des pays hôtes et les acteurs des opérations de paix reste évidemment un enjeu majeur. Deuxième grande partie de ma présentation, puisqu'on parle de multilatéralisme, les contributions. Donc je vous le disais, un des éléments marquants des missions de paix des dernières ou de la dernière décennie, disons des 20 dernières années, c'est la contribution asymétrique, je parle ici des missions de paix de l'ONU, la contribution asymétrique entre le Nord et le Sud. Si on veut avoir évidemment une image un peu grossière ou un trait assez grossier, mais qui quand même correspond à une certaine réalité, les pays du Nord payent pour les missions de paix, que ce soit aux Nations Unies ou que ce soit directement dans le budget alloué aux missions de paix, et les pays du Sud contribue en soldats. Si vous prenez les 20 premiers pays contributeurs, je pense qu'il n'y a pas un pays du Nord dedans. Donc, évidemment, ça, c'est un point important. Ce qui ne veut pas dire que les pays du Nord ne font pas autre chose. Et en Afghanistan, évidemment, les pays du Nord ont été extrêmement engagés dans une opération de paix, elles aussi. Mais quand on parle de mission de paix des Nations Unies, sous mandat onusien, clairement, etc., avec une chaîne de commandement onusienne, alors, évidemment, cette question-là est soulevée. On assiste quand même au cours des dernières années, un réengagement, au moins en termes diplomatiques, des pays occidentaux. On l'a vu notamment avec les États-Unis et Barack Obama, qui a eu une diplomatie plus proactive sur cette question-là, qui a promis un certain nombre de réengagements. On le voit avec la France, au Mali, en République centrafricaine, qui récemment a demandé à l'Union européenne de prendre le relais dans un certain nombre de missions de paix de l'ONU, en disant on ne peut pas être partout à faire du contre-terrorisme et des missions de paix de l'ONU, etc. On le voit donc ici au niveau de l'Union européenne. L'autre élément, évidemment, c'est cette multiplication des acteurs va obliger à réfléchir sur la question des partenariats. Comment améliorer les partenariats et comment améliorer, finalement, l'arrimage entre les missions de paix de l'ONU, les contributions potentielles de l'OTAN, et puis finalement les autres organisations régionales, au premier chef desquelles l'Union africaine, qui contribue quand même sur le continent africain, et l'Union européenne, mais évidemment tout à l'heure, une de nos collègues parlait des organisations dans le sud-est asiatique. Donc dans ce contexte-là, que doit faire le Canada ? C'est ma troisième partie. Alors le Canada, pourquoi ? Pourquoi le Canada doit-il se réengager ? Ben, parce qu'il n'a pas le choix de faire sa part pour la paix et la sécurité. Ça me semble là aussi un postulat évident. Et s'il ne décide de ne pas faire sa part, la paix et la sécurité s'invitera au Canada. On l'a vu récemment avec Ouagadougou. Le Canada n'est pas une île. Donc le Canada n'a pas d'alternative. Il doit s'engager et se réengager sur les questions de paix et de sécurité. Ne serait-ce qu'au niveau politique, si le Canada entend effectivement obtenir un siège au Conseil de sécurité, qui là aussi est un objectif du gouvernement Trudeau, alors il devra effectivement montrer à ses alliés, à l'ONU, et je dis bien à l'ONU, et je vous rappelle que quand on parlait tout à l'heure de la perception du Canada, pour la première fois quand même sous le gouvernement conservateur, le Canada avait perdu la course à l'obtention d'un siège au Conseil de sécurité. Alors on peut rencontrer les chefs d'État des différents pays, mais c'est aussi un indicateur de la perception que les chancelleries étrangères au niveau des Nations Unies pouvaient avoir du Canada, y compris d'autres pays que ses alliés naturels sur le continent africain, les États insulaires, etc., etc., même si évidemment les causes sont multiples. Le défi, c'est les contraintes budgétaires. On ne saura pas ce que le Canada va faire tant qu'on n'aura pas les budgets. Et là, quand vous dites que vous allez faire un budget, un déficit de 10 milliards, puis de 25 milliards, évidemment, qu'est-ce qu'on est capable de mettre sur la table ? La question est moins évidente. Alors, dans le comment, je dirais que le Canada doit commencer par conduire une réflexion doctrinale sur à quel moment le Canada, ou comment, ou à quelles conditions le Canada doit s'engager dans les missions de paix de l'ONU. Le premier, évidemment, il faut que le Canada ait des intérêts. Les intérêts et les valeurs ne sont pas contradictoires, mais il faut qu'il y trouve son intérêt. Ça peut être évidemment divers et varié, ça peut être des intérêts politiques, géographiques, économiques, etc. La deuxième, il faut que le Canada ait une, je dirais, compréhension du terrain sur lequel il va s'engager. Déjà peut-être un réseau établi. Ensuite, une valeur ajoutée en termes de capacité. Donc il faut que le Canada se retrouve des niches dans lesquelles il va pouvoir faire la démonstration que oui, son engagement, si son engagement est limité en termes de moyens, il peut en fait avoir quand même un fort impact en termes d'atteinte de ses résultats. Le deuxième élément, je dirais, c'est que le Canada ne pourra pas ne pas contribuer militairement. C'est très clair. Vous ne pouvez pas faire des opérations de paix, vous ne pouvez pas être un acteur du maintien de la paix ou un acteur de la lutte antiterroriste si militairement vous ne vous déployez pas quelque part. Alors ça, évidemment, je pense que la défense est en train de travailler là-dessus, c'est très clair, mais est-ce que le Canada pourrait être un pays qui mette à disposition régulièrement un contingent de 600, 800, 1000 personnes qui pourrait déployer très rapidement quand il y a un endroit où il y a une crise, en disant oui, là on est capable de faire, et éventuellement avant qu'une mission des Nations Unies se déploie ou qu'une mission de l'Union africaine se déploie, faire un peu finalement de manière urgente le pompier, peut-être que ça pourrait être un élément. Militaire, oui. En termes de policiers, de capacité civile, je pense que le Canada doit aussi s'engager et appuyer là-dedans, en arrimant, selon moi, et c'est déjà une des valeurs ajoutées, clairement son action à l'espace francophone. Je ne dis pas qu'il doit s'y limiter, mais je pense que le Canada peut faire la différence dans l'espace francophone, qui, je le rappelle, donc, est un espace particulièrement instable, pas le seul, mais particulièrement instable, qui connaît beaucoup de crises et beaucoup de missions de paix. Il peut faire aussi un lien avec l'Organisation internationale de la francophonie, qui, elle, est un petit acteur indirect des missions de paix, mais qui fait du plaidoyer, et qui pourrait être un acteur avec qui il est intéressant de, je dirais, arrimer une action. Deux derniers points. Le Canada, comme il l'a déjà fait, effectivement, et j'entendais, pourrait faire, effectivement, de la formation aussi, directe, indirecte. Je me souviens que l'Europe faisait, par exemple, de l'appui à certains ministères africains dans certains pays, précisément pour le déploiement des missions de paix. Donc là, vous avez, effectivement, une orientation qui est beaucoup plus stratégique sur, par exemple, comment créer des cellules interministérielles, etc., etc. Ça peut avoir un intérêt, évidemment, de faire ça. Dernièrement, je dirais que la formation doit être, et je pense que l'environnement sécuritaire, il faut comprendre que le Canada est un grand acteur de l'aide au développement, mais de moins en moins, l'aide au développement ne va pouvoir se faire parce que les contextes sont de moins en moins sécuritaires. Donc il y a clairement ici, à mon avis, un lien important à établir entre l'aide au développement et l'environnement sécuritaire. Donc ma conclusion, et puis on pourrait prendre un exemple précis et qu'on a déjà donné, qu'on a déjà soutenu auprès du actuel gouvernement quand il n'était pas gouvernement, c'est le Mali. Le Mali, selon moi, répond à tous les critères que je viens de vous donner ici. Il serait la porte d'entrée du réengagement canadien, notamment dans l'espace sahélien, mais plus largement sur le continent africain. Le Canada y a des intérêts économiques clairs. Le Canada fait de l'aide au développement là-bas. Le Canada a une relation bilatérale importante avec le gouvernement malien depuis longtemps. Les soldats canadiens connaissent le théâtre d'opération malien. C'est une plaque tournante, la question du Sahel à l'heure actuelle, du terrorisme djihadiste. Okay. Et on craint une contagion à la Libye notamment, mais également à la radicalisation d'un certain nombre de populations qui est le défi à l'heure actuelle auquel on est confronté. Et donc je pense que vous avez ici effectivement clairement un exemple d'un endroit où tous les signaux sont au vert pour qu'effectivement le Canada puisse éventuellement considérer la possibilité de se réengager, que ce soit un exemple de son réengagement dans les missions de paix des Nations Unies. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que tout passera par là, mais ça serait déjà probablement un premier pas. Je vous remercie.